France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Quand, en 1980, se tenait à Berlin-Ouest une rétrospective Rauschenberg de grande ampleur, Jean Dève saluait l'événement en proposant dans les Nuits magnétiques une série de 5 émissions qui faisaient dialoguer l'œuvre de Robert Rauschenberg et la ville de Berlin. De cette série, nous allons entendre le 3e volet qui s'éloignait un peu de la Kunsthalle où se tenait l'exposition pour plonger dans les 34 chants de l'enfer de Dante à travers les illustrations qu'avait données pour chacun d'eux Robert Rauschenberg. Une séquence dantesque entrecoupée d'une conversation autour d'un dîner dans l'atelier du peintre allemand Jens Janssen, au cours duquel on parlait de Rauschenberg un peu et de Berlin beaucoup. Du mur, de l'Est et de l'Ouest, du Berlin d'avant et de celui de ce début des années 80. De sa vie artistique et intellectuelle, de sa vie nocturne, des bons et des moins bons côtés de cette ville que l'on comparait à ceux de Paris et de New York. Nuit magnétique d'un peintre et d'une ville, Rauschenberg-Berlin, 3e des 5 parties, diffusée le 7 mai 1980 sur France Culture.
Bonsoir. D'un peintre et d'une ville, Rauschenberg, Berlin. 3e partie. Ce matin, en cherchant la Divine Comédie dans ma bibliothèque, je trouve « Silence ». Vous savez bien, le livre de John Cage. Je l'ouvre et je lis à propos de Rauschenberg ceci. Il ne m'est pas venu à l'esprit de lui demander pourquoi il avait choisi Dante comme projet d'illustration. C'est peut-être parce que Dante est là depuis si longtemps, si proche, sans qu'on se donne la peine de s'en servir, que c'est là son sens, justement. Il a fallu qu'il aille en Floride et, la nuit, cherchant du secours, qu'il traverse à pied une région infestée de serpents à sonnette, qu'il glisse sur une jetée aussi, se fasse une entaille à la jambe, reste accroché par un pied, sans appeler à l'aide. C'est que peut-être il n'est pas besoin de l'enfer pour vivre ou jouer le spectacle d'un psychodrame. Une cuisine suffit et 3 personnes. J'imagine ceci. Raconter les cercles de l'enfer de Dante et ses 34 chants illustrés par Rauschenberg en une sorte de double récit et verser cela sur un psychodrame banal, très quotidien, qui s'est déroulé à Berlin, dans la cuisine, justement, de l'atelier de Jens Lensen. Il était 6h du soir, comme dans l'enfer. Nous parlions, nous dînions.
Nach halber Fahrt durch unser Erdenleben fand ich in einem Wald mich irregegangen, weil ich des rechten Wegs nicht Acht gegeben. In schwarzer Nacht von wüstem Wust umfangen, noch jetzt, wie sagt sich's, Herr vor allen Schrecken, ergreift ihr Nachbild mich mit Todesbangen.
Und selbst
der Tod mag herber kaum und schmecken. Darum vom Heile, das ich dort gefunden, zu melden, muss auch das zum Wort ich wecken.
La scène se passe quelque part sur la Terre, d'abord dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint, du 7 au 8 avril 1300, puis dans la matinée du vendredi saint. Dante a 35 ans, il porte une longue robe qui lui tombe presque au talon. Ce vêtement le fait reconnaître pour un Florentin, il a une corde en guise de ceinture, et nous apprendrons plus tard qu'il s'en est servi pour essayer de prendre la Lanza, qu'il a ratée. Pendant la nuit, la lune était pleine et a éclairé la forêt.
Dans son interprétation du premier chant, Rauschenberg symbolise la forêt noire par des grues et des branches. Pour rendre cette descente encore plus plausible, l'illustration va de haut en bas.
Chant 2. La scène est encore sur la terre. À la fin du premier chant, le rideau était tombé dans la matinée du vendredi saint, 8 avril 1300. Il se relève le même jour, mais au coucher du soleil. Dante et Virgile ont dû beaucoup marcher. Où ? Que se sont-ils dit ? Nous l'ignorerons toujours.
Dante apparaît ici pour la première fois comme un homme qui porte une serviette autour de ses hanches. Au milieu du tableau, on reconnaît Béatrice, menée par Dante derrière leur guide Virgile, et dans l'image idéale d'un tableau classique, montrant Virgile qui est en train de descendre.
Il y a une série de dessins Dante Drawings. Lui a fait des illustrations pour l'Inferno de Dante. Et lui a fait des dessins avec des transfer drawings, ce qui signifie que lui a des journaux comme Time ou The Stern ou quelque chose comme ça, les couleurs sur le papier. Et après ça, lui fait avec les crayons, avec des différentes techniques, lui dessine sur ses papiers encore plus comme ça. C'est son presque comme combine.
Vous connaissez l'historique de l'enfer de Dante?
Oui, alors lui a un mécène qu'on ne connaît pas, le nom n'est pas public. Oui, alors ce mécène a donné le contrat à Rauschenberg pour le Dante Drawings et lui a travaillé longtemps pour. Ils sont 34 pièces et les dessins sont au musée de Modern Art à New York, musée d'art moderne à New York. Et
il y a combien
nous, oui, dans le catalogue, nous avons combiné le texte de l'Inferno de Dante avec les drawings of Rauschenberg, avec les dessins de Botticelli.
Botticelli a fait soi-même
des très fines dessins pour ça. Ils sont ici à Berlin, dans les musées, dans le frigidaire. On ne peut pas sortir, c'est les originaux.
Vous auriez pu les sortir pour l'occasion.
Non, c'est pas possible.
Pas possible.
Non, on ne peut pas toucher, on ne peut pas mouver les choses, non.
C'est... Jamais.
Jamais.
Plus jamais.
Oh, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour on peut voir de nouveau. Ils sont encore là. On peut voir.
Chant 3. Soir du vendredi saint, 8 avril 1300. On ignore naturellement où se trouve cette porte de l'enfer, à laquelle Dante et Virgile sont arrivés par le chemin difficile et sauvage, indiqué au dernier vers du chant 2.
Rauschenberg a peint l'entrée de l'enfer avec la fameuse inscription en italien « Per me si val nell'eterno dolore ». Les opportunistes, symbolisés par des mains qui attrapent et par des bras, sont encadrés par la porte de l'enfer et ils suivent le drapeau avec le mot « Bienvenue ». Le ferry est montré comme vieux bateau tout rouillé et la tête du capitaine avec une auréole se trouve au bout du bateau. L'évanouissement de Dante est présenté par un personnage renversé. En bas à droite du tableau.
Chant 4. Le sommet du premier cerf de l'enfer et le vestibule des lâches paraissent être de plein pied et séparés seulement par l'Achéron que Dante a traversé par un monde inconnu. La descente va commencer ici. Il existe dans le limbe où se trouvent les deux poètes un château éclairé entouré de 7 murailles et d'une rivière, qui est le séjour des hommes illustres. Soir du vendredi saint, 8 avril 1300.
En haut à gauche, Virgile et Dante sortent de l'Achéron pour regagner la terre. Une flèche montre dans la direction de la porte vers le premier cercle. Les fleurs au milieu symbolisent le Mato di Fresca Verdura au pied du château de la sagesse. En bas est montrée la descente de Dante dans le royaume des éternelles ténèbres et du bruit éternel par une voiture de course.
Cette fois, après le vestibule des lâches et le limbe, nous pénétrons dans l'enfer, proprement dit. Virgile et Dante sont descendus au second cercle, dont le rayon est moindre que celui du premier, puisque la forme générale du royaume de douleur est celle d'un cône sur sa pointe.
Rauschenberg symbolise Minos par la tête d'un taureau, son jugement par la lettre X. Il montre Virgile comme un tout petit personnage en train de se battre avec Minos. En bas, on voit plusieurs couples d'amoureux dont les visages sont reconnaissables mais très flous dans les ténèbres. En bas à droite, on voit Dante évanoui.
Alors, je pense que je trouve ça très important que c'est pour nous la première fois avoir la combinaison de textes de Dante,
de Dante
et une description qu'est-ce que c'est sur les objets et très belles reproductions, n'est-ce pas?
Très très belle. Oui. Oui. Je connais l'original, je l'ai vu à New York.
Oui.
C'est très beau.
Alors c'est formidable. Oui. Oui. Alors nous avons travaillé à l'imprimerie, à la lithographie. Avec ces ouvriers, ils avaient qualifié plus avec ces choses parce qu'il est très difficile de prendre la couleur du papier parce que c'est presque blanc et souvent c'est jaune ou quelque chose d'autre. Et on a cherché de trouver le ton
du papier et les dessins très fines. Alors la combination avec les Botticelli dessins, c'est très intéressant parce que le texte est le même et les motifs qui viennent sont aussi presque les mêmes.
Exactement, je trouve qu'ils sont très très proches.
Très proches, l'une à l'autre. Oui. Et moi, je suis franchement, je pense que Lieberman est juste quand on lui dit c'est de la même qualité. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un artiste vivant qui fait une qualité.
Ce qui a changé, c'est peut-être l'actualité, le support visuel.
Oui. Alors, qui fait des dessins comme ça? Ça, je pense, il y a. Regardez ça. Comment elle est fait à l'imprimerie.
Mais je trouve que le blanc est très présent dans le travail de Rauschenberg.
Oui. Par exemple, c'est silk screen, nous avons vu les sérigraphies, c'est juste. Oui. Avec le blanc, avec lui a fait avec des couleurs directement sur le silk screen. Voilà, c'est le Dante Drawings. C'est pas juste, c'est bleu rouge.
Énergie.
Chant 6. Pour la première fois, Dante entre en conversation avec un damné, qui est précisément un Florentin.
Rauschenberg utilise ici un poisson pour montrer la puanteur épouvantable et les chiffres 1, 2 et 3, ainsi que les têtes de chien pour symboliser Zerbère. Dante et Giacco, montrés comme loup noir et blanc, se tiennent face en face, en bas à gauche. L'un porte un casque blanc et l'autre porte un casque noir.
Chant 7. Dante et Virgile traversent le cercle et passent sur une source d'où découle un ruisseau qu'ils contournent et qui forme le marais du Styx. Ils y découvrent de nouveaux damnés.
Rauschenberg commence son dessin en écrivant les mot incompréhensible de plutôt à l'envers. La querelle entre les avares et les gaspilleurs est symbolisée par des blocs de ciment et des lignes pointillées. Une pile d'argent symbolise la richesse. L'artiste montre des enfants qui bégayent, qui balbutient, comme symbole des éternels lamenteurs qui sont uniquement capables de murmurer leurs élégies.
Chant 8. La séparation est très nettement marquée entre les deux grandes divisions de l'enfer. Au-dessus de l'enceinte, le vestibule des lâches et les cinq premiers cercles. Dans l'intérieur, les quatre derniers.
L'eau avec un bateau en perspective très profonde et une flèche symbolise la traversée du Styx. Le sort de Filippo Argenti est symbolisé par ses initiales FA, qu'on reconnaît d'abord en entier et après déchiré. Le reste du dessin montre la ville 10 avec des cheminées d'usine qui symbolisent les cheminées éternelles dans lesquelles il y a un feu éternel.
Chant 9. Dante et Virgile allaient échouer dans leur entreprise quand un messager céleste vient à leur secours et réduit l'enfer à l'impuissance.
On voit les messagers du ciel dans les combinaisons de cosmonautes, à gauche dans le tableau. À droite se trouve toute une série de tombes ouvertes.
Chant 10. Le tombeau, Ugi Farinata, est situé près des murailles. Le dialogue de Dante et du damné terminé, Virgile coupe le cercle des hérétiques, en prenant à gauche, par un sentier qui conduit les voyageurs au bord d'une haute falaise qui surplombe une vallée. Samedi Saint, 9 avril 1300, entre 2h et 3h du matin.
La représentation de papier millimétré en bas à droite symbolise la prophétie.
Chant 11. Ce chant est entièrement occupé par une longue dissertation de Virgile. Elle a lieu au sixième cercle, encore, mais à son extrême bord, au sommet d'une falaise qui sépare ce cercle du suivant. Elle se termine vers 3h du matin, le samedi saint, 9 avril 1300.
Rauschenberg montre des blocs de pierre tout autour du sixième cercle, tombés lors de la crucifixion de Jésus-Christ. En bas, nous voyons le septième, huitième et neuvième cercle de l'enfer. La A, qui se trouve en haut à droite, symbolise le tombeau du pape Anastase.
Alors Jens, vous fumez la pipe derrière l'enfer de Dante. Vous avez vu l'enfer de Dante illustré par Rauschenberg?
Là. Oui. Ah oui, oui, oui. Je l'ai vu et là on voit très bien qu'il a appris beaucoup des... qu'il a, je vais pas dire appris, mais qu'il connaît très bien les peintres classiques, parce que c'est très 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 bien fait, tout ça, très très fin, et toujours ce nombre d'or dedans, ça on peut très bien, ils sont très calculés, très propres, nets.
Il y a un grand sens de l'espace, hein,
oui,
par rapport à la page, à la feuille.
Le titre, c'est plutôt libre, le titre Enfer de Dante. Ça me fait beaucoup de plaisir de finir dans un enfer comme ça, comme Rauschenberg l'a décrit. Hein. Ça doit être
très beau dedans. Et pour vous, un travail doit être très actuel?
C'est peut-être très... plus amusant vivre dans l'enfer de Rauschenberg que dans le ciel de Kienholz. Peut-être un peu le mettre comme ça.
Et pour vous, un travail est très actuel, tourné vers l'actualité?
Le travail de Rauschenberg?
Oui.
Très actuel, oui. Oui, très actuel.
Non, c'est pas ça ma question.
Ah, pardon.
Tu penses à quoi?
J'ai regardé tout petit peu. Bon, on est quand même dans un café ici.
Toujours là.
Il y a
c'est le
la
café.
Distraction.
C'est le café de la rétrospective. On est entre l'enfer et le zoo, là, et les singes du zoo.
Le zoo, oui.
Le radiateur.
Oui, qui se gratte le cul gratuitement. Très bien. On le voit tout ça.
Il est 6h du soir. Nous sommes dans l'atelier de Jens Jensen, très exactement dans la cuisine. Nous mangeons, nous dînons. Il y a la jeune éditrice Brigitta Restorff, Christine Gerber, peintre qui travaille à la fois à Berlin et à New York. Peu à peu, nous allons entrer dans une sorte de psychodrame ou de vestibule sans fin. mais toujours très drôle.
Être informel.
Ouais.
Alors l'informel est quand même formel, tu
ouais.
vois.
Oh, quelle belle phrase.
C'est vrai, il faut structurer l'informel.
Regarde, lui, est pire que moi.
C'est le langue de la pensée.
Est quand même formel. L'informel, c'est aussi le formel.
Non, mais
c'est juste.
Bien sûr, bien sûr. Juste. Mais comment tu dis en allemand? C'est un problème de traduction maintenant. Non, mais je trouve ça très drôle que tu dises ça, que, qu'à Paris, les discussions sont destructives. Non, à Berlin, j'ai toujours eu l'impression que c'est à Berlin, justement, que les discussions sont si destructives.
Que les gens se... C'est différent, parce qu'on ne te touche pas les choses plus... on parle de boire, ou de vivre, ou de se coucher tard, ou de ne pas travailler, ou des choses comme... Mais c'est, on n'arrive pas au essentiel. On ne touche pas ta vie intellectuelle à Berlin.
Tu as l'impression?
Oui.
Entre le peintre ou en général?
En général. Et surtout, c'est dans les artistes, dans le milieu artiste, moi, j'aime.
Tu crois bon, qu'à Paris, les artistes se démontent mutuellement?
Ah oui, absolument.
L'un au détriment de l'autre.
Ah oui.
Mais à Paris, ça se passe comment? Ah, je dirais
Berlin. Tu veux que je recommence?
Non, mais tu crois qu'on évite ici, enfin, de toucher, si tu veux, à l'essentiel ou au centre, enfin, de... Tu crois alors qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas de confrontation intellectuelle, quoi?
Oui. Absolument, oui.
Donc il n'y a pas finalement la discussion, enfin question au rapport de travail
Non, et en plus, l'Allemagne n'est pas une... c'est pas tellement verbal comme Paris. À Paris, on se plaît dans le mot.
Mais écoute, moi j'ai toujours... Enfin, tu sais que je vais très très peu à Paris, bon... Mais chaque fois que je suis à Paris, ou même si je suis en présence des Français, bon, enfin des Français, enfin bon, avec tout ce que ça comporte...
Ah,
moi j'ai compris surtout... pour moi, la différence entre la vie intellectuelle de Berlin et de Paris, c'est à Paris, tout le monde essaye de... Chacun essaye de détruire l'autre. Ici, chacun essaye de détruire soi-même.
Ah! Bon, alors tu crois que ici, c'est l'autodestruction, quoi?
Oui, ici.
Oui. Peut-être.
Presque total, jusqu'à la...
Mais qu'est-ce qu'on essaie de détruire à Berlin?
Soi-même.
À travers quelqu'un.
Soi-même, à travers du monde. Tu penses pas?
Non. Je ne sais pas.
Est-ce qu'on a peur à Berlin?
Non, justement, je crois qu'ils essayent de se démontrer tout le temps qu'ils n'ont pas peur de rien, qu'ils boivent jusqu'à qu'ils crèvent. Ils n'ont pas peur de la faim, ils n'ont pas envie de... Il n'y a pas tellement l'envie de vivre.
C'est le micro dans le beurre.
Mais si tu le plantes dedans, peut-être qu'il tiendra
c'est
bien.
C'est exactement ce que je ne pouvais pas faire.
Dans la baignoire, en plus, regarde ça.
Mais ça, c'était... il faudrait c'est le prendre en ça. Photo.
Il faut dire à l'auditeur que le micro se trouve dans la baignoire.
Oui, oui, non, mais il est dans la baignoire, dans la baignoire avec quelqu'un dedans, regarde. Tu vois pas, tu vois pas les pieds, là?
C'est un objet, un gag, ça. Tu l'as acheté au marché
en Italie. En Italie.
Ah, toujours.
Tu vois, c'est la troisième cravate de notre journée.
C'est là pas mieux comme ça?
Ah, c'est beaucoup mieux, oui.
Attends, c'est dans une tasse. Alors toi, Jens, tu vis à la fois à Berlin, en Italie et à Paris.
Voilà,
oui. Oui, on peut dire ça, parce que...
Comment tu fais pour t'y retrouver?
Comment
tu fais pour t'y retrouver, enfin te retrouver?
Comment tu tiens le coup, oui, en changeant les lieux tout le temps comme ça?
Son monde toujours avec lui, partout où il va, alors ça change pas tellement.
Oui,
son monde, c'est qui?
J'ai des
pas
amis.
Non, pas quelqu'un, son travail, ses idées, tout ça. Je pense.
Et ce sont comme des mêmes amis qui viennent me visiter ici.
Oui, qui viennent aussi à Berlin très souvent.
Je me sens
oui.
à la maison, chez eux. C'est un échange en permanence.
En plus, entre les artistes, tu vois en Hollande, en Danemark ou à Paris, et tu trouves exactement les mêmes gens dans le vernissage. Non?
Tu sais que moi, je n'aime pas tellement les vernissages. De toute façon, je trouve qu'on voit toujours les mêmes têtes. Enfin, c'est... Kinos l'a quand même un peu... Là, enfin, l'a vu. Enfin, quand il a fait son art show, tu vois, c'est le même C'est le même small talk partout. Ça, c'est bien sûr. Ce sont les macros de l'art.
Tu parlais tout à l'heure de la balance à Berlin, non? Il y a toujours.
Non, mais parce que, tu sais, non, mais c'est ça, c'est vraiment une chose terrible. C'est que tout est balancé ou contrebalancé. Il n'y a pas de position radicale, tu vois. Bon, par exemple, quand maintenant les quatre écrivains ont adressé une lettre au gouvernement allemand de pas trop se solidariser avec les États-Unis, parce que les États-Unis n'ont vraiment pas le droit de faire des appels moraux, après tout ce qu'il y a eu, Vietnam, Aliens, le rôle du CIA, etc. Bon, la réponse du gouvernement a été quand même incroyable. Hein. Ils ont dit que les écrivains n'avaient pas bien réfléchi à ce qu'ils ont dit, que ce n'était pas balancé ce qu'ils ont pensé. Ce n'était pas une pensée bien arrondie, bien... Enfin, balancée, en fait, je ne sais pas si vous comprenez le terme. C'est quand même, c'est incroyable. Hein. Comme j'ai déjà dit l'autre jour, s'il y a une position formulée à la télévision, il y a tout de suite une contre-position. Alors, on ne peut pas laisser une chose telle qu'elle parce qu'on a peur que ce soit un parti pris radical, tu vois, ou radicalement autre. C'est ça. Alors que lui, bon, quand je lui pose une question comme ça, il sait pas, il fait des détours. Tu vois, moi, j'ai l'impression, tu vois, que Jens, c'est... Je crois qu'il y a une...
Cette faculté... Un poisson.
Non, mais il ne s'agit pas de t'attaquer personnellement, mais il n'y a pas de faculté de critique pertinente en Allemagne. Et ça se sent. Je ne sais pas, vous ne pouvez peut-être pas le sentir parce qu'il y a le problème de langue. Mais il n'y a pas de véritable...
Tu veux dire qu'il manque le courage pour la folie?
Oui, il manque le courage de toute façon. Il manque le courage envers les autorités, envers tout ce qui est public, envers tout ce qui est fait, imprimé. Enfin, ça vraiment, finalement, les gens finissent par ne plus rien voir, tu vois.
Enfin, Berlin, c'est pas l'Allemagne, quand même.
Absolument pas. L'Allemagne, c'est une horreur. C'est un cauchemar. Non, mais c'est la course à l'argent, c'est la culture bien gardée, comme dans un territoire, comme une chasse gardée, tu vois. Non, mais ça, c'est un train de vie tout à fait... Non, mais vraiment, bon, c'est un train de vie purement matérialiste, c'est ça. Si moi, je monte dans... Parce que quelquefois, je me rends dans le midi de l'Allemagne pour voir ma sœur. Et... Non, mais je parcours quand même, bon, évidemment, à part la RDA, mais... Il y a quand même aussi des villes enfin, que je parcours en train. Et ça, c'est vraiment... C'est terrible. Les conversations des gens qui montent en train. Enfin.
Qu'est-ce que tu fais à Berlin? Qu'est-ce qui te rend indispensable à Berlin?
Ce qui, Berlin, me rend indispensable à moi ou vice-versa?
Non, toi.
Mais quand même, Brigitte...
Il y a...
Ah,
oui.
Pardon.
Non, non, mais va, parce que tu sais mieux que moi.
Tu me dis que tu ne peux pas faire ce que tu fais ici.
En France.
10 ans en France.
Non, ça, je ne peux pas, c'est sûr.
Mais la vie, il y a une chose qui est plus importante que la vie, et que le travail, c'est la vie.
Ah, mais pour moi, le travail, c'est ma vie. Ah, mais parce que je ne vis pas dans une situation de travail aliénée. J'ai l'extrême chance de faire ce que je veux faire. Alors, si tu veux, mon travail, c'est pas le mot travail avec tout ce que ça comporte comme,
le travail,
comme connotation péjorative.
Tu as commencé il y a un an maintenant.
Oui.
Et avant?
J'ai fait cette école. Et au début, j'ai voulu faire aussi cette école.
Tu n'as pas aimé du tout.
Oui, à la fin.
Tu n'as pas fait ta vie en France.
Mais
alors?
Non, c'est vrai. Bon, quand j'ai monté l'école pendant les 2 premières années, je me suis beaucoup identifiée avec ce que je fais. J'ai adoré. Une fois l'école montée, ça m'intéressait plus, quoi. Enfin, c'était... Non, mais je ne suis pas partie parce que, bon, évidemment, maintenant, j'ai... Parce qu'ici, j'ai beaucoup plus de possibilités de travailler qu'en France. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans le midi? Je ne peux pas monter une édition.
Bon, c'est tu vois,
et livre allemand, quoi. C'est ridicule. Enfin, non, mais tu vois? Mm-hmm. Non, mais ça... Remarque, tu pourrais dire, si je ne gagnais pas ma vie ici en France, ce serait pareil, non? Mais c'est vrai, puisque je ne la gagne pas.
Non. Alors, je te dis pourquoi tu restes ici.
Autant vous voulez faire des éditions bilingues. Alors.
Parce que comme ça, ta vie dans le sud de la France reste un rêve.
Pour moi,
si tu es là, ça devient la réalité.
Non, mais évidemment,
et ça, je fais chier.
C'est un peu vrai.
Alors, comme ça, tu
t'achètes... Bon, en fait, M. Jens,
beaucoup
se formule,
s'exprime. Et 2 chats, 3 chats, 5 chats, et pour ne pas avoir la possibilité
de voyager,
quitter, de voyager, vrai, d'équiper
d'aller. Et parce que l'idée est que j'ai une chose, mais plus chère que la réalisation de cette idée, ça c'est vrai.
Chant 12. Les poètes descendent par un éboulement du sixième cercle au suivant. Puis ils arrivent à un guet que Dante, qui ne tient pas du tout à se brûler les pieds, traverse sur la croupe de ce centaure, alors qu'on peut déduire du vers 96 que Virgile le survole. Samedi saint, 9 avril 1300, entre 3 et 4 heures du matin.
Rauschenberg symbolise Virgile par Adlai Stevenson et Dante par John F. Kennedy, tandis que Richard Nixon trouve sa place sous les sophistes de guerre. Pour symboliser le Minotaure, Rauschenberg utilise des jambes musculeuses et annexes.
Chant 13. La forêt des suicidés. Le conseil de Virgile et ses conséquences. Le sort des suicidés. Les dissipateurs. Un suicidé, Florentin.
Sans commentaire.
Chant 14. La pluie de feu. Division en trois groupes des damnés de cette zone. Le grand veillard de Crète. Les fleuves infernaux. Conseil de Virgile.
Sans commentaire.
Chant 15. Dante et Virgile s'éloignent de la forêt des suicidés et rencontrent une troupe de damnés qui vont en sens contraire. L'un d'eux reconnaît Dante.
À droite, au tableau, Rauschenberg montre le visage avec un bec de Brunetto qui dit à Dante « Je te suivrai accroché à ton ourlet ». Au milieu du dessin, nous voyons la triste promenade de Dante avec Brunetto. L'athlète qui court symbolise Brunetto qui doit courir pour retrouver ses ombres errantes.
Chant 16. Au moyen d'une corde qui jusque-là avait servi de ceinture à Dante, Virgile fait un signe auquel un monstre obéit en arrivant aussitôt. On apprendra au chant suivant que c'est le transporteur.
La pendule montre la chute d'eau et en même temps la corde que Dante est en train de dénouer de sa taille et que Virgile laisse tomber dans la fosse pour une secrète apparition, pas montrée dans le tableau, qui monte en haut à travers l'air pollué.
Chant 17. Au signal de la corde, Virgile envoie Dante visiter seul les usuriers, pendant que lui-même apprivoise la bête.
Rauschenberg symbolise Gérion par le visage humain et le corps d'un reptile. Les usuriers se tiennent dans un rectangle à droite du tableau.
Chant 18, description du 8e cercle.
Rauschenberg montre le froid qui règne dans ce cercle, puisque nous nous approchons du centre de l'enfer par le poète portant les skis. Les empreintes des pieds symbolisent l'éternel voyage des ruffians et des séducteurs, et dans la partie inférieure du tableau, on voit l'œil de la putain Thaïs se reflétant dans une mare de saleté.
Curieux.
Oui, tu sais ce que je bois là, Jean? Je bois un mélange de... Je bois un mélange de champagne, enfin de vin mousseux et de bière. Tu sais que c'est excellent, ça.
C'est bon?
Ah, j'adore ça.
Quand tu parlais du brouillard, tu mets le brouillard berlinois.
Ah, moi, j'aime, oui, enfin, moi, j'aime bien. C'est une genre de... Parce que c'est très bien. Tu sais, à Berlin, il n'y a pas d'heure de fermeture pour les bistrots. Les bistrots sont ouverts toute la nuit. Alors, se balader la nuit comme ça, de bistrot en bistrot, avec un brouillard, enfin, moi, j'aime bien.
Ça s'accorde bien. Il y a une place, là, tu m'en parlais tout à l'heure. Comment s'appelle-t-elle, cette place?
Savigny Place?
Oui.
On l'appelle Bermuda.
Bermuda Triangle.
Bermuda
Triangle. Ah oui, le triangle de Bermuda. Pourquoi on doit
parce que les gens disparaissent pendant 3 jours, comme ça, dans d'une boîte de nuit à l'autre.
C'est vrai.
Une fois arrivé, on se perd tout de suite.
Ou quelquefois, on couche dehors aussi dans les arbustes, tu sais, quand on a.
Bon, ça, c'est toi, hein.
Oui, oui. Pas seulement moi, d'autres aussi.
Bon, quelquefois, quand on.
Non, mais tu sais, parce que quelquefois, je sors à 8h du matin du Tiblefish en été, je dis merde, je peux pas rentrer maintenant dans mon appartement parce que je verrai rien de l'été. Alors je fais un peu de vacances, je me couche en plein air quoi, pour profiter un peu de l'été quoi.
Toujours en jupe longue.
Ah, toujours aussi en jupe longue, oui.
Oui. Oui. Et avec les clés et son portefeuille dans la main.
Oui. Mais une fois, on m'a volé tout, hein. On m'a tout volé, sac et tout. Et je me suis réveillée, j'avais plus rien sur moi. Là, je m'étais couchée. Mais là, j'étais de l'autre côté. Parce que si Vinnie Place est partagé, il y a un bon et un mauvais côté. Le côté, bon, je te montrerai tout à l'heure, c'est le quartier très louche, hein, de bandits, de voyous. Et ce côté où nous sommes, c'est le quartier, c'est le côté artiste, oui, intellectuel, bien.
C'est ça. Les...
Parce que la place est traversée par une rue. Hein. Bon, alors, cette nuit-là, je me suis aventurée dans l'autre côté, juste bien sûr qu'on m'a volé les affaires. Et quand je suis rentrée, et un type avait déjà déposé mes affaires, y compris les lunettes, parce que je n'avais même plus mes lunettes. Hein. Il avait tout déposé, carte d'identité, enfin, carnet, enfin, qui est très précieux pour moi, un carnet, surtout aussi pour les adresses parisiennes, bien sûr. Tout déposé, évidemment. Même le portefeuille, mais évidemment, il était vidé, hein, il n'y avait plus d'argent dedans. Alors, c'était quand même génial, ça.
Mais on l'a déposé où ?
Chez ma voisine, parce que dans la carte d'identité, il y a l'adresse.
Mais c'était le même matin où les pompiers t'ont réveillé ? Non, ça c'était un autre.
Les pompiers ont défoncé ma porte avec les flics.
Pourquoi ils ont
fait ? Oh, c'est une histoire très triste. Enfin, triste, elle est peu amusante. Parce que c'était il y a très longtemps. Au-dessus de moi habitait une fille qui est entrée en analyse. J'ai commencé une analyse. Et moi, à cette époque-là, je t'avais déjà raconté, j'étais amoureuse folle de Joe Cocker. Hein. Toutes les nuits, je suis allée dans les discothèques pour danser. C'est là où, d'ailleurs, je me suis fracturée la cheville, quoi.
3 fois, tu veux dire.
Oui, oui, terrible. Ah, c'était avec la chanson Aeroplane. Je me rappelle comme si c'était hier, évidemment.
Tu ne peux pas la chanter ?
Non, je ne sais pas la chanter, mais tu sais, j'aime Joe Cocker, surtout pour son pianiste, pour Dean Russell. Je crois que je préfère même lui qu'à Joe Cocker. Enfin, je ne suis pas très sûre. Il faudrait que je mette ça point un jour. Enfin, quoi qu'il en soit. Cette époque-là, quelqu'un m'avait fait cadeau d'un disque, Joe Cocker, Headache to Headache. Woman to Woman and Headache to Headache. Moi, je trouve ça formidable comme titre. Je rentrais, j'avais
un vrai à moi de tête.
Ah oui, non, mais je trouve ça tellement fou comme, tu vois. J'avais un très très vieux magnétophone, c'est-à-dire que lorsque tu mettais le disque, il recommençait automatiquement jusqu'à ce que tu aies débranché l'appareil. Et moi, quand on est ivre, je ne sais pas, on n'entend plus très bien. Non, mais je crois que ça tape un peu sur l'ouïe. Parce qu'on met toujours les choses, on met la musique très fort, tu vois. Alors j'ai mis la musique très très fort. Et ça recommençait. Alors la fille en haut croyait que je voulais me suicider. Alors que c'est elle qui voulait se suicider. C'est pourquoi elle est en train d'analyser. Alors elle a banalement projeté que moi je me suicidais. Alors elle a alarmé les pompiers et les flics. Et moi à l'époque je te couchais encore par terre. Et je me suis couchée en robe noire, collier de perles, très, parce que j'étais rentrée très correcte. Mais j'avais plus la force de me déshabiller. Je vois 3 paires de bottes, non, 6 paires, non, ça fait combien ? 6 personnes, ça fait... C'était 6 personnes. Je vois toujours des paires de bottes autour de mon lit. Je me retournais, je croyais que j'avais un mauvais rêve. Alors les gens m'ont
secoué. C'était la 3e guerre mondiale.
Non, mais tu vois, parce que j'étais dans un mi-état de mi-éveil. Et je pensais, bon, mais j'ai encore eu un de mes cauchemars habituels. Je me retourne. Alors on me secoue comme ça. Alors c'était les flics et les pompiers qui avaient carrément défoncé ma porte. Parce que l'autre idiote a dit que moi, j'étais en danger de vie, enfin, en danger de mort. En allemand, on dit danger de vie. En français, on dit danger de mort, c'est ça. Alors voilà cette histoire, enfin, c'est...
Mais c'était aussi à l'époque où tu aimais beaucoup écouter Wagner, c'est ça. Mais ça, tu fais toujours.
Ah, mais ça, Wagner, c'est un amour permanent, quoi, c'est...
Et oui, tu laisses les fenêtres ouvertes.
Oui, mais ça, en été, ça, c'est terrible. Parce que j'habite dans une arrière-cour, il y a un effet d'écho extraordinaire. Et si je rentre, si je mets à plein tube mes musiques de Wagner, enfin, j'avais dit, surtout une époque où j'ai presque toute la nuit écouté la fin du Crépuscule des Dieux, avec ce grand aria, n'est-ce pas, de Brunhilde. Puis, bon, c'est très puissant comme musique. C'est... Et puis, là, Birgit Nilsson a une voix très... Bon. J'ai eu des lettres. Enfin, il y a eu aussi des flics quoi, qui venaient. Puis le Sénat m'a écrit une lettre. Et le Sénat, avec le département écologique, tu vois, que je fais trop de bruit, que je dérange les autres, si ça recommence, il faut que je paye 50 000 marques d'amende. Enfin, voilà. Bon, il y a eu encore autre chose, mais enfin, ça, c'était pas comme ça.
Mais aussi parce que tu as hurlé un peu trop.
Oui, oui, non, mais j'ai eu des amendes. Oui, ça, vraiment, il y a des choses. Il faudrait que... Ça fait, enfin, depuis 10 ans, j'essaie de changer d'appartement, mais je suis peu flexible. Non, mais il ne faut pas construire maintenant des grosses histoires à cause du Boyard et Wagner, tout ça, ça serait vraiment trop cliché.
On wire like a drug. It don't feel like quiet. I have tried in my way to be free. Like a wood on a hook, like a knife from an old-fashioned book. I have sailed all my rivers for
this. Et le mur?
Moi, je m'en fous du mur. J'étais un an en Berlin avant que j'ai vu le mur pour la première fois. Je l'ai vu à 6h du matin, j'étais déçue parce qu'il est tellement petit et bas. Je croyais que c'était vraiment grand, énorme, pour pouvoir voir de l'autre côté. Moi, le mur, c'est une réalité politique, tu comprends, évidemment. Bon, avec tout ce que ça comporte. Mais moi, personnellement, je ne me sens pas du tout enfermée à Berlin, pas du tout. Puisque je ne bouge pas beaucoup, alors, je m'en fous.
Non, mais tu parlais tout à l'heure des voyous. Attends, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des casses
Ah, ben oui, ben, quelquefois, ils laissent des tirs, enfin, ils se tirent dessus aussi, tout ça. Mais, non, mais du coup, les voyous, c'est... Ils sont pas plus sages ici qu'ailleurs.
Ils sont déjà en prison.
Oui, non, mais bien sûr, mais il y en a aussi qui est en prison, qui ressortent, enfin, qui jouent beaucoup, tu vois, des joueurs, des macros, enfin, tu vois, ces quartiers, c'est enfin, un peu louche, quoi. Voilà.
Mais tu connais pas l'histoire sur sur Berlin, mais Berlin d'après-guerre. De 45 à 50.
Mais je suis née en 48, dis.
Non, mais t'as raconté des
histoires.
Oui,
d'accord, hein, mais... Oui. Oui, enfin, je vois pas. C'est Oscar Wilde qui te dira tout à l'heure. Hein.
Oscar Wilde.
Oui, je lui ai donné rendez-vous au Civil Fish.
Il n'est pas français, non.
Non, mais là, c'est tellement éminent ce qu'il dit.
J'ai l'impression que les gens regrettent un peu le vieux Berlin, non? Par exemple, quand je passe devant la métropole, hein, c'était avec toi, je crois. C'était avec qui?
C'est pas avec moi, je vous ai parlé du métropole.
Quelqu'un m'a dit que c'est le métropole, c'était extraordinaire.
C'est avec Werner.
Ah, c'était avec Werner.
Là. Où est-ce que vous êtes allé avec Werner?
On voir une amie.
Ah bon?
Et on est passé devant le métropole, il nous a dit voilà, c'est l'un des trucs les plus extraordinaires qui nous reste.
Oui.
Non, mais alors j'ai l'impression qu'il veut qu'il y a quand même un certain regret du vieux Berlin.
Sûr?
Oui, mais le vieux Berlin avant-guerre, non?
Oui.
Oui. Mais c'était les centres écrits pour les écrivains, et les théâtres, ici.
Bon, le film aussi.
Oui, mais enfin, tout se passait à Berlin, quoi, enfin, à cette époque, bien sûr. Mais c'est
on venait de Paris pour étudier ici. Sartre a étudié à Berlin, je pense.
Mmh. Oui,
il y avait Robert Musil qui a écrit...
Kafka est venu à Berlin.
Oui, bien sûr.
Il y avait même, j'ai lu dans un catalogue de Francis Bacon à ce temps-là, quelqu'un l'a demandé, qu'est-ce que vous avez impressionné le plus dans votre vie et inspiré votre peinture? Et il a dit, Berlin avant la guerre.
Je trouve que c'était encore impressionnant quand même, quand on additionne ce qui reste de Berlin.
Pourquoi cette impression?
Le métropole, c'est quand même, je trouve ça assez extraordinaire.
Comme bâtiment, c'est une laideur un peu pareille.
Pas évident.
Ah, c'est pas évident, je trouve que c'est monstrueux.
Il y a encore de vieilles maisons, très étonnantes.
Ah, c'est très belle vieille maison, oui.
Il y a beaucoup d'arbres, je trouve, comme à New York, hein, à Berlin.
Non, à New York, il n'y a pas beaucoup d'arbres.
C'est dans les rues.
Oui, mais là, oui.
Dans certains quartiers, il y a...
Bon, le but était que chacun citoyen a son arbre. Un arbre. ça veut dire 3 millions, presque 3 millions en ce cas-là. Et on est presque arrivé à ce but-là.
Ah oui?
Jusqu'au moment.
À chacun son arbre?
Oui. Ah oui.
Et à quand à chacun son pinceau?
Son quoi, pardon?
Son pinceau.
Ah oui.
Chaque être humain est un artiste, voilà, nous y sommes.
Là, je suis content.
On est allé au cinéma hier, on a vu Boys.
On a vu le documentaire sur Boys, hier au cinéma.
Je t'ai oui. Moi, j'ai lu dans la télévision.
Oui, oui, c'est le même, oui. Jens, qu'est-ce que tu penses de Boys?
Jens, qu'est-ce que tu penses de Rauschenberg?
Non, je voulais ajouter quelque chose pour l'histoire de l'ambiance de Berlin, plutôt. Si tu vois les rues, le brouillard, les maisons moches, attaquées par des fusils, des bombes...
Des trous de balles.
Trous de balles, oui. Alors, non, là, tu comprends aussi... Comment un style comme ce réalisme berlinois se pouvait développer seulement à Berlin? Je suis convaincu de ça. Que tu vois, si tu vis dans une ville comme Paris ou Londres, Copenhague, je ne sais pas quoi, tu n'as pas l'inspiration pour ce réalisme.
Cependant, on veut faire de Berlin une ville culturelle et c'est malgré tout une ville militaire.
Oui. Non, mais ça, c'est tout à fait le mot. Bien sûr. Mais on ne voit pas beaucoup, nous, des soldats.
Pourquoi vous riez?
Mais ils se cachent, hein, les alliés. Ils se cachent, ils ne sortent pas de chez eux, ou bien ils sortent toujours en civil. Ou même ça, ils ne font pas trop parce qu'ils ont toujours des cheveux tellement courts qu'on les reconnaît tout de suite, surtout les Français. Alors les Français, c'est terrible. Tu sais, quand ils arrivent au quartier Napoléon, il y a un truc studio audiovisuel, là. Alors, les trois premières bandes sont terriblement utilisées et usées, enfin. Mais alors, les autres sont tout à fait intactes. Alors, parce qu'ils abandonnent au bout de deux ou trois semaines, tu vois, ils en ont marre d'apprendre l'allemand, enfin. Ils sont là, ils sortent très peu. C'est un ghetto.
C'est vrai, on ne voit personne. Ni les Américains, ni les Anglais.
Ah, c'est un ghetto. Ils vivent vraiment dans le quartier Napoléon. C'était énorme. Mais alors, c'est un véritable parc. Mais c'est grand, grand, grand. J'étais une fois dedans, il y a très longtemps. On met ses officiers dimanche à midi pour manger. Les dames en jupe longue. Et... Oh là là, c'était vraiment un cinéma incroyable. Mais vraiment terrible. Alors, il a fallu que je remplisse une fiche. Je m'a demandé si j'étais déjà en RDA. Bon, évidemment, je n'étais pas en RDA, mais enfin, ils veulent savoir tout ça. Et tu as une fiche, enfin, où que tu as, il faut que tu fasses signer par un responsable. Et... Non, mais vraiment, le maître, c'est le grand luxe, quoi. Enfin, c'est super chic. C'est la conversation à voix basse. Enfin, c'est... Voilà.
Finalement, il n'y a jamais d'incident. Oui, il y a une attente de l'incident.
De l'incident, une attente de l'incident. Je crois pas. Je crois pas. Enfin, pas de la part des habitants de Berlin.
Pas plus que dans le reste du monde.
Peut-être que les forces alliées s'ennuient, peut-être ils aimeraient, mais enfin, pour prouver pourquoi ils sont là, mais enfin, pas de la part des habitants, non.
Bon, je t'ai raconté l'histoire quand j'étais maintenant à Noël à Paris. Tout le monde m'a parlé de la guerre.
Oui.
Et je suis revenu ici à Berlin. J'ai dit, mais écoute, tout le monde parle de la guerre.
Oui, mais j'ai pas voulu croire.
Mais Brigitte, elle voulait pas croire. Mais écoute, personne parle ici d'une guerre comme ça. Oui. Et quand même, c'est une ville tellement proche à la frontière.
Ou bien avec beaucoup de retardement, hein, parce que maintenant, le chancelier Schmitt a parlé aussi, il a fait la comparaison de la situation actuelle à la situation d'avant 1914, enfin. Bon, la Première Guerre mondiale, enfin, il y a eu des analogies quand même. Oui, maintenant, on a commencé un peu de parler de ça aussi, mais...
Vous y croyez, vous, l'analogie?
Non.
À l'idéologie?
À l'analogie.
Les choses se répètent?
Non. Non, pas du tout. Il y a des situations semblables, mais...
Je crois à des vagues, si tu veux. Des vagues qu'un mouvement... créer créer un autre mouvement comme ça, tu vois. Programme de contraste.
Chant 19. Retour sur le pont suivant.
Rauschenberg a dessiné ici les pieds des pêcheurs. Les plus grands sont les pieds du pape Nicolas III, donc un contemporain de Dante. Leur place est prise tout de suite par de nouveaux pêcheurs qui ensuite tombent dans le trou noir.
Chant 20. Le supplice des devins. Origine de Mantoue, patrie de Virgile, intermède astronomique.
Virgile, représenté ici avec un casque de cosmonaute, regarde Dante plein de colère. Dante est représenté d'abord comme personnage double et après par un portrait apparemment choqué pour montrer en même temps l'ambiguïté de sa réaction vis-à-vis des pêcheurs.
Chant 21. Le supplice des trafiqueurs. Propos chronologiques. Formation de l'escorte et départ en fanfare.
Rauschenberg symbolise le caractère semi-militaire des diables en leur donnant des casques et des masques à gaz. Quelques-uns portent même des bâtons et des boucliers.
Chant 22. Une escorte inquiétante. Ruse de damné. Bagarre de diable.
En haut du tableau, Rauschenberg montre la mer de goudron, d'où émergent seulement les gueules des pêcheurs. En bas, il montre les diables faisant des plaisanteries.
Chant 23. Inquiétude de Dante. Supplice des hypocrites. Virgile reçoit une leçon.
Rauschenberg montre les diables qui poursuivent le poète comme personnage flou en haut au milieu du tableau. Les hypocrites qu'on voit en haut dans leur soutane ronde marche sur Caïphas et ses compagnons.
Chant 24. Réflexion de Dante. Une escalade difficile. Conseil de Virgile. Sur le septième pont. Prédiction politique.
Des images racontées par Dante, nous trouvons chez Rauschenberg les arbres gelés et pourtant en fleurs de la parabole de Virgile en haut à gauche. Nous trouvons l'état de pierre que Dante ne peut pas escalader. Et les voleurs sont représentés par des bras croisés et des mains cachées.
Chant 25. Dante et Virgile, durant les épisodes qui se déroulent dans ce chant, ne bougent pas de place. Ils parlent même très peu. Ils regardent le spectacle.
Rauschenberg commence l'illustration de ce chant également avec des mains qui font des gestes pleins de sacrilège. En haut à droite, on voit le démon de ce canal, Cacus, représenté comme une voiture de course sur laquelle se trouve un monstre. En bas, on trouve encore des reptiles, quelques-uns sont très pâles, les autres très sombres, pour symboliser la métamorphose des pêcheurs dans ce chant.
Tout ça se passe dans une cuisine, finalement. Alors, tout le monde boit, Jens fume la pipe.
La pipe danoise.
Et Christine, peint. C'est vrai que tu peins pas, toi.
Oui, non.
Tu colles.
Hein? Oui, moi je monte.
Tu colles, tu décolles, tu montes. Tu démontes.
Je construis.
Tu construis. À Berlin, à Paris, à New York.
Voilà. Pour l'instant.
Rita fume la pipe.
Aussi, en travaillant. Permettez-moi.
Et le frigidaire, on ronfle comme un vieux chat.
Il sent bon, ce truc au chocolat.
On a mangé.
Oui. Hein? Si, c'est là pour ça.
Ouais, on peut faire une petite pause comme ça.
Et tu veux te reposer?
Non, pas comme ça. Mais...
Chante-nous quelque chose.
Ah, mais joue-nous quelque chose avec la trompette. Jens, allez, écoute.
C'est le moment ou jamais, Jens.
Oh, s'il te plaît, Jens. Tu ne te fais pas prier comme une vieille comtesse avant de jouer au piano.
Dans notre happening, là, je vais faire. Déjà pensé.
Tu veux inviter des amis?
Je garde mon haleine.
Il faut inviter quelques gens qui parlent français pour ça.
Finalement, mais depuis que vous êtes là, je me rends compte qu'il n'y en a pas tellement qui parlent français quand même. Depuis que vous êtes là, c'est drôle, hein?
Il faudrait peut-être vraiment inviter Cotix et encore d'autres.
Ils parlent français, eux?
Oui, oui, bien sûr. Ah, oui, elle aussi, très bien.
Tu sais ce qui est extraordinaire, Yann, c'est que tu sois le voisin de René Bloch.
Oui.
Pourquoi c'est
chocolat, merci beaucoup.
Parce que je connais la maison de la galerie de Bloch à travers de très très nombreux livres.
Ah bon, c'est connu.
Très connu. Oui.
Pourtant, je pensais que Skoulemas était plus connu que Malory ici, non?
Non, quand même pas. C'est surtout René Bloch qui est connu.
Comme organisateur aussi. Non, il a fait beaucoup de choses pour Berlin et il a animé beaucoup la vie culturelle. Les arts visuels à Berlin.
Jens, pourquoi elle a arrêté avec la galerie? Tu sais la raison?
Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Peut-être ça lui donne plus de possibilités à voyager.
Pourquoi est-ce que le mur n'est pas tout droit? Il ne divise pas en deux Berlin. Il est quand même. Il a une.
Des virages.
Ils ont essayé de ne pas couper les maisons en deux, ils ont juste mis le mur au milieu de rue. Non, en général, au milieu de la rivière.
Oui, ils se sont servis de la rivière.
Oui, grand partie.
Tu sais que le mur est jusqu'à 1 mètre dans la DDR. C'est pas juste la frontière. Ils l'ont mis dedans.
Sur leur territoire à eux.
Ouais. Ils ont fait cadeau d'un mètre.
Ah oui, c'est vrai, ils ont donné un mètre, oui. Tu comprends?
Non.
Bon, tu sais qu'il y a eu le secteur est de Berlin, n'est-ce pas? Secteur est. Et à la limite du secteur est, bon, la frontière, tu vois, du secteur est qui délimite le secteur ouest, ils ont construit le mur sur le territoire du secteur est. Et ils nous ont fait cadeau d'un mètre. Tu penses qu'ils auraient pu avancer le mur d'un mètre?
Qu'est-ce qu'on en fait de ce mètre-là?
Mais c'est maintenant le secteur ouest.
Mais nous, ici...
Tu comprends pas ça. Mais une frontière, nous, c'est une frontière. Ici,
pendant eux, ils
tu comprends
pas. Il y a 5 mètres.
Alors, ils ont laissé ça, quoi.
Ben oui,
ils ont fait le mur, si tu veux, là. Ils ont laissé ça. Voilà. C'est très, très généreux, ça.
Jens qui téléphone.
Oui.
Il est actif, Jens. Hein.
Tu trouves? Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Il ne parle pas beaucoup. Hein. Je n'ai jamais vu peindre.
Parce qu'il voulait lui laisser.
Tu l'as jamais vu peindre?
Non, il n'a pas eu le temps, tu me diras.
Oh, mais c'est ça, parce que depuis. Mais il travaille beaucoup. Hein. En général, il commence vers 10h du matin.
Pourquoi est-ce que tu vis avec 3 chats?
Ah, moi j'adore les chats. Ça.
Non, c'est pas une réponse.
Si, pour moi, c'est une présence indispensable. J'aime beaucoup toucher les chats. J'aime qu'ils soient comme ça autour de moi. J'aime le voir bouger. J'aime le regarder. Tout. Quand ils sortent, enfin, ils sont. Je trouve que c'est une présence terrible. Terrible.
Tu joues au ping-pong?
Non, je ne joue pas. Je déteste jouer d'ailleurs. Ni aux cartes, ni au ping-pong, ni rien du tout. Je trouve que pour moi, c'est gaspiller du temps. Je préfère parler. Si je passe des nuits entières au bistrot, c'est aussi gaspiller du temps, si tu veux. Mais moi, je préfère parler. Parler. Ou écouter, si tu veux. Mais... Tu joues, toi? Tu aimes jouer?
J'adore le jeu.
Qu'est-ce que tu joues? Tu joues au ping-pong, toi?
Ouais.
Aux échecs aussi?
Ouais.
Avec York?
Ouais.
Il joue bien?
C'est un champion.
Ah oui? Tiens, tiens, tiens. Je joue aux échecs à l'école, au dernier banc. C'est pourquoi j'ai raté une année. Il a fallu que je double une année. Parce qu'il y avait un petit jeu aux échecs, on pouvait, tu vois, mettre les figurines comme ça pour qu'elles tiennent. Tu vois, c'était un truc pliable. Alors, on avait toujours ça sous le banc, on a toujours joué. On a dû doubler toutes les deux la classe. Pourquoi tout ça?
Finalement, la peinture moderne à Berlin raconte très peu les événements allemands. Il n'y a pas de bombes dans les toiles, il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de...
Ah oui, tout ça te surprend?
Oui. Il n'y a pas de réminiscence, si tu veux.
Oui, Christine.
Oui, mais ça fait combien des années déjà? 35 ans plus,
ouais.
Mais on ne peut pas vivre 35 ans derrière. La plupart des gens qui peignent maintenant, ils sont nés après la guerre, alors pourquoi ils vont...
Donc, c'est un peu comme si la leçon américaine avait épongé absolument tout l'intellect.
Épongé, que ça veut dire? Effacé?
Absorbé, si tu veux. Ah, effacé, si tu veux.
L'intellect, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi, s'il te plaît. C'est comme si, quoi, l'esprit américain...
La leçon, je dis.
La leçon américaine.
Oui.
Qu'est-ce que tu entends par leçon américaine?
Celle de Rauschenberg, par exemple, ou de Jasper Jones, ou... Enfin, l'aventure américaine avait recouvert absolument tout un passé, allemand ou européen.
Non, c'est vice-versa, je pense. Que c'est beaucoup de cultures européennes qui sont allées en Amérique et qui s'est transformée en autre chose et peut-être retournée. Mais il y a tellement d'autres choses. Maintenant, vous avez vu Rauschenberg, je ne sais pas. Mais par exemple, moi, je travaille plutôt dans la continuation de la Zero Group, qui est très allemande.
Qu'est-ce que c'est?
Pin et... Non? Mac. Et... très blanc, en blanc, sans couleur, seulement, et qui est très actuel aussi. Alors, c'est, non, on ne peut pas dire. Je ne pense pas que c'est tellement américain, la scène artistique.
Moi, je n'ai pas l'impression, non.
Non, pas du tout.
Non.
C'est quoi ça, le Zéro Group?
Zéro Group, c'est une chose qui est venue après la guerre, qui est assez importante. C'est un groupe très, très important allemand qui s'est développé. J'ai un gros livre à la maison, si vous voulez je l'apporte demain, on peut tout voir, parce que des zéro groupe allemand.
Ah oui,
Yves
Klein,
c'était un mouvement très important ici en Allemagne,
un chef là,
et qui a beaucoup influencé l'Amérique.
Tu regardes,
ou la Cobra Group hollandaise.
Mais parce qu'il faudrait
quand beaucoup influencer la
Amérique. Parce que j'ai donné rendez-vous à Oscar.
Ah, oui, bon.
Ah, c'est vrai, moi je
où
peux
aller
avec Tiblefish.
Pardon?
Au Tiblefish.
Je peux continuer avec
moi. Le Tiblefish, c'est la palette à Berlin, si tu veux. Enfin, c'est même un peu plus que la palette.
mélange palette coupole.
Mélange palette coupole, oui. Zwiebelfisch, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mais c'est un terme technique de typographie. Lorsque tu as dans un mot qui est imprimé d'une certaine... Qui est, enfin, tu as une écriture qui appartient à une certaine famille d'écriture. Et quand, par exemple, dans une, tu as un mot en lettres d'imprimerie, si tu mets dans ce mot à l'intérieur une lettre, par exemple en italique, on appelle ça un Zwiebelfisch, tu vois. Ça veut dire, mot à mot, ça veut dire le poisson d'oignon. Ça ne veut rien dire du tout. Mais comment vous appelez ça?
C'est une faute de typographie, pas une faute orthographique.
Non, de typographie, là, je crois. Tu as compris.
Et qui a trouvé ça? C'est une très belle action.
De nommer un bistrot comme ça?
De trouver le titre pour un bistrot.
Ah, c'est Bernd.
Ah, c'est Bernd.
Lui, il voulait faire une...
C'est qui? Café littéraire.
C'est pas un café littéraire, c'est un café pour peintre, pour artiste.
Mais il voulait faire...
Il voulait un café littéraire. Mais il a attiré beaucoup plus le peintre que le littéraire. Beaucoup
et
plus.
Les architectes aussi. Hein.
Oui, les architectes. Alors là, oui.
C'est terrible.
Pourquoi il n'y a pas littéraire à Berlin?
Si, mais. On ne les voit pas, ils se cachent.
Ils boivent plutôt, pas.
Pour avoir peut-être moins que les peintres. Pardon.
Ils ont moins d'argent peut-être que les peintres.
Oh, mais je crois que ça s'équivaut, hein. Non? Non. Il y en a bien sûr qui viennent. Bien sûr, mais. Thomas Prach.
Alors, c'est ce monsieur que je connais, que j'ai vu hier, qui m'a servi une limande
mangeable. Oui, c'est le patron.
Qui a trouvé le
titre
du café, restaurant.
Oui, c'est Bernd, Bernd Pfarr, un ancien pharmacien.
Voilà. C'est un cuisinier qui
cuisinier de passion.
De formation
De formation, si tu veux, chimique.
Il a changé de chimie.
Oui, tout à fait, oui. Et ce qui se passe, ce sont des réactions chimiques, quoi. Mais tu as vu hier, hein, le poisson, là, l'allemande. Il a, je trouve, un petit tic nouvelle cuisine. Enfin, la nouvelle cuisine, si elle se réduit à ne pas cuire les choses, eh ben.
Ah, c'était à moitié cru, hein.
Ah oui, ça, oui, l'allemande, elle était encore rose aux arêtes, hein.
Mm-hmm. Ouais, le problème, c'était congelé, tu vois.
Non, mais il dit que c'était pas congelé.
C'était dur.
Oui.
Tu vois, vers l'arête centrale.
Oui. Vers l'arête centrale, c'était dur. L'arête centrale, c'est joli. Non, mais il fait très bien la cuisine, lui, hein, vraiment.
Il a une belle tête. Hein.
Oui. Ah oui, il te plaît, comme tête, comme... Oui.
Il est doux, comme un chat.
Molle, plutôt.
Mou.
Mou, comme...
Il est mou, oui.
Non, elle est molle, alors. Il est mou, elle est molle.
Non, mais il est très susceptible aussi. Hein. Très susceptible.
Mais il doit être vif comme un chat aussi. Il a des yeux de chat.
Oui, oui, oui.
Mais plutôt sa femme, non?
Et sa femme n'arrange rien. Il aime être...
Non, mais elle a des yeux verts.
Il aime être flatté aussi comme un chat. Roux.
Ah oui.
Caresser comme ça, si tu parles bien
lui,
de sa cuisine.
Lui, il est flatté, c'est vital.
Il ronronne un peu, non?
Ah oui. Ah non, mais ça, vraiment. Hein. Ça, il est avide de compliments. Avide, avide. Ah, terrible. Quand il sert à manger, il vient comme un rat à flairer. Si c'est bon, ce qu'on entend.
Alors, le Zwiebelfisch, c'est le centre de Berlin. C'est un des centres de Berlin ou c'est le centre de Berlin?
C'est le centre, parce que moi, je vis en face, bien sûr.
Atelier Gerber.
Non, mais c'est vrai. On peut dire quand même c'est un des centres. Ou le centre. Il y a d'autres centres.
On l'appelle le bureau.
On l'appelle le bureau.
Chant 29. Observation de Virgile et réponse de Dante.
Au milieu, Rauschenberg montre l'image des âmes entassées sur le sol humide de la vallée pleine de puanteur. En bas, on voit les outils que l'homme moderne utilise contre la nature comme symbole des moyens pas naturels des alchimistes Et en bas, on voit l'image de fusées et de projecteurs brûlants.
Chant 30. Exemple de folie furieuse. Falsificateur de personnes. Échange de coups d'injures. Reproche de Virgile.
Pendant une image de la folie qui traverse le champ comme une fièvre, Rauschenberg utilise deux fois l'image de chien enragé. Une carte de crédit et une pièce de monnaie coupée en deux montrent les formes modernes des faux monnayeurs, tandis que le personnage du plus grand faux monnayeur de tous les temps, Meister Adam, qui souffre de la soif éternelle, est montré par un personnage renversé et par une seule goutte d'eau en bas à gauche. Simon et Madame Potiphar sont représentés en bas à droite.
Chant 31. Samedi saint, 9 avril, 1300, entre 3 et 4 heures de l'après-midi.
Rauschenberg utilise l'anneau énorme d'une chaîne pour montrer la force des géants et peut-être pour montrer également que ces géants sont enchaînés à cause de quelques péchés terrestres. En bas, la main gigantesque d'Antéus guide les deux poètes vers le fond de du fossé.
Chant 32. Ce cercle est divisé en quatre régions, mais, sauf en ce qui concerne peut-être la quatrième, elles n'ont pas de forme spéciale. Et pour passer de l'une à l'autre, les voyageurs ne rencontrent ni obstacle ni limite.
En haut du dessin, on voit les pieds des géants qui surveillent éternellement la fosse du milieu. Un peu plus en bas, le désert gelé, où l'on reconnaît plusieurs détails du poème de Dante, comme par exemple l'œil encadré de cristal pour montrer que les pêcheurs n'ont plus aucun moyen de sécher leurs larmes.
Chant 33. Dante et Virgile continuent à circuler, en ligne droite, semble-t-il.
Rauschenberg commence son tableau avec Ugolino, qui est en train d'avaler Ruggieri. En bas se trouve la tour, représentée comme grue, dans laquelle Ugolino était enfermé, ainsi que les cadavres de ses fils que Ruggieri a laissé crever de faim. Au milieu, à droite, deux squelettes, l'un avec une tête en vie, l'autre habillé comme homme d'affaires, montre que dans cette partie de l'enfer se trouvent des pécheurs qui ont commis des crimes tellement horribles que leur âme ont déjà disparu dans l'enfer, tandis qu'ils continuent à vivre sur terre. Rauschenberg montre également un œil dont les larmes sont tellement gelées qu'ils sont devenus un bloc de cristal.
Chant 34. Apparition lointaine de Lucifer. La Iudeca. Lucifer, gymnastique de Virgile, la chute de Lucifer et ses conséquences, montée à l'hémisphère austral.
Rauschenberg montre le Satan en forme d'un singe albino. En bas, la réverbération de Dante montre la vision intérieure qu'il a fait par ses expériences du voyage à travers l'enfer, et qui montre en même temps la façon double sens de son escapade de l'enfer. Pour souligner encore cette signification double, Rauschenberg dit qu'on peut retourner le dessin, ainsi Dante apparaît en haut de l'enfer.
Mais tu aurais dû voir cette scène, mais c'était terrible, Jens. Ah, Carola, elle a piqué une rage, mais alors, elle a jeté tous les verres qui étaient sur la table. Paf, 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 tu vois. Puis elle s'est mise dessus et... Oh là là. Elle a gueulé, puis elle a pris son sac et elle est partie.
Alors, tout le restaurant... C'est un lieu, alors, hystérique.
Absolument, mais l'hystérie, c'est très beau. L'hystérie, c'est... Les gens hystériques s'expriment, ils vivent, ils sont... beaucoup plus... Ah, moi, les hystériques. Ah oui, mais c'est magnifique.
Mais le mur est aussi hystérique, non?
Il ne s'exprime pas.
Enfin, si, hier, en promenant, je regardais des façades et des pots de fleurs du rez-de-chaussée, hein, devant sur un habit de fenêtre. Et il y avait des barbelés devant les fleurs.
Quelqu'un veut se protéger du vol. Ah, ça, c'est terrible, oui.
On te vole les fleurs.
Devant les fleurs. Fleurs.
Mais tu sais pas...
On a volé les menottes parce qu'ils étaient très belles, vieilles. Comment ça s'appelle?
Non. Les poignées. Les menottes, c'est autre chose.
Les poignées de porc.
Elle entend barbeler, elle pense aux menottes, mais ça, c'est tout à fait logique.
Non, les
poignées.
Poignées de portes. De fait, on l'emmène. Parce qu'ils sont très belles parfois. Tu vois?
Oui, aussi les trucs pour sonner, là. Enfin, comment tu appelles? Enfin, les sonnettes, des trucs de...
Parfois, c'est...
On a volé aussi la mienne.
En métal, comme ça.
Pour avec des têtes de lion.
Oui, oui.
Mais on peut les retrouver facilement sur le...
Marché aux puces, oui. Mais il faut payer. C'est cher, tout ça. Mais...
J'avais des bonnes questions, là, mais j'ai complètement oublié.
Pour écrire, tout ça.
J'avais parlé des barbelés. Ah oui, on était à l'hystérie, là.
Ah.
L'hystérie de Swimblefish et l'hystérie du mur.
Oh, non, pas du mur. Oui, enfin, si tu veux, oui. Oui, d'accord. Toujours d'accord pour ces constructions. Oui.
Mais Brigitte est toujours pour émotion.
Mais pour passer à l'est, il faut passer une porte.
Plusieurs, c'est là.
Et elle, tu lui as pas encore montré la petite porte.
J'ai toujours pas vu la porte de Brandebourg.
Il faudrait qu'on nous fasse un programme pour demain. Je me couche plus tôt et comme ça, on pourrait faire.
Mais j'aimerais bien longer le mur.
Oui, non, mais il faut faire ça demain, oui.
Avec le micro. Que tu aimes tant.
Tu veux voir si le mur s'exprime.
Résonne.
Résonne. Non, mais d'accord, il faut faire
Grésille.
Ça.
Oui.
Grésille. Jens, dis-moi, il y a combien de passages à Berlin-Est? Il y a Checkpoint Charlie, il y a...
Qu'est-ce que c'est que ça avec l'Espagne?
Checkpoint Charlie.
Friedrichstraße.
4 ou 5.
Oui, ce sont des checkpoints. Paris, c'est un des passages pour aller à l'Est, tu sais. La frontière.
C'est un pont.
Non, ce n'est pas un pont, le checkpoint. C'est un pont, le checkpoint Charlie?
Non. C'est une rue coupée comme ça. Il y a des soldats et tu passes. Et tu montres ton passeport et tout ça, et tu dois payer 10 marches, je crois.
C'est pas pont, c'est...
Point.
C'est pas pont, c'est point.
Mais il y a aussi un pont, on échange des espions.
Oui, c'est ça, il faudrait savoir, mais c'est
là,
où?
On peut seulement aller avec Bahnhof Friedrichstraße, seulement avec la Espagne, qui part du Savigny Place.
Christine, quel est ce pont où on échange les espions? Quand le gouvernement fédéral achète, entre guillemets, des incarcérés en RDA, ou lorsqu'il y a des espions qui sont échangés les uns contre les autres.
Ça s'appelle seulement pont.
Non, il y a un pont, si, il est assez fameux. Oscar Hout doit le savoir, qu'on verra tout à l'heure. Il sait ces choses-là.
Oscar, il parle seulement en vers.
Mais il parle presque... Oui, c'est une prose lyrique, quoi. Baroque, très baroque. Il parle dans un allemand magnifique, il fait des phrases de 5-6 mètres de long. Mais il n'oublie jamais les particules, hein, parce qu'il y a des, tu sais, en allemand, il y a les particules que tu rejettes, que tu peux rejeter 5 ou 6 lignes après, tu sais. Non, mais tu sais. Alors il faut être concentré, oui, parce que un mot peut avoir 5 ou 6 particules différentes. Alors si tu n'attends pas, tu sais pas ce qu'il veut dire, tu comprends. Non, mais ça crée un suspense terrible, tu sais. Non, mais parce que en plus l'auditeur est obligé de... Non, alors, Oscar Hout parle un allemand tout à fait baroque. Hein. Terrible, hein, terrible.
Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie?
Il est constructeur de piano. Il vit avec son vieux père qui a 85 ans ou 86 ans. Très vieux aussi. C'est une famille de... On dit constructeur de piano? Non. Comment tu appelles les gens qui construisent des pianos?
Facteurs de piano.
Facteurs de piano, voilà. C'est une vieille famille de facteurs de piano. Ich glaube, du hast die unten gelassen.
Die Notiz?
Nein, on va tous ensemble, je pense, tout à l'heure.
Qu'est-ce qui est curieux?
Le maquillage.
Non, je suis curieux, je veux tout savoir.
Ah oui.
Non, mais c'est 33, bien sûr.
Oui.
Tu es fatigué?
Hein?
Tu es fatigué?
J'ai un trou là.
Le coup de barre.
Tout le monde a un trou là, mais c'est bon. On bouge pas tout le temps son trou.
Mais je suis scandalisée. Tu dis des choses comme ça parce que tu sais que je rêve de ça. Au moins tu as rougi. Au moins tu as rougi. Alors, au moins tu as rougi. Ça parle en ta faveur.
Je suis dans une des meilleures familles de l'Allemagne du Nord.
Mais ça t'empêche pas de dire des cochonneries.
Je rouge.
Justement à cause de ça. Toujours en opposition puérile. De dire de gros mots comme ça. Ce sont même pas des gros mots, c'est pire. Des allusions cochonnes.
On attend 2 heures, on va voir si tu peux...
Tu sais très bien que quand même, quand je suis ivre morte, je ne dis pas de gros mots.
Tu me coupes déjà la parole, c'est le début de... mauvais comportement.
Comportement, excuse-moi Yann, d'avoir coupé la parole.
Mais
comportement, c'est pas mal.
Tu en as
pas. Tu as dit inspiration. C'est une jolie spirale, ça. Inspiration, hein? C'est beaucoup plus joli qu'aspiration. Non, mais moi, je veux dire aspiration maintenant. Non, pas mieux.
Ah oui.
Non, parce que j'ai utilisé aujourd'hui les paroles spirituelles, les choses comme ça.
Alors tu mélanges tout ça, ça fait trop. Ouais.
Nuit magnétique, d'un peintre et d'une ville, Rauschenberg, Berlin, troisième partie, avec la participation de Dieter Rückaberl, Ina Chazo, Jens Jensen, Christine Gerber, Brigitta Restorff et Bruno Gagnère-Fontanil, Michel Kreis, Didier Cornier, Jean-Patrick Boutier, Pamela Dousseau, Jean Dève. Bonsoir.
Nuit magnétique, d'un peintre et d'une ville, Rauschenberg, Berlin, troisième des 5 parties, diffusée le 7 mai 1980 sur France Culture. À suivre.